Ah ben ça tombe bien, Pierre-Yves, parce que j'attendais justement le cadeau du fédéral pour acheter un véhicule électrique pour l'ajouter au cadeau du provincial.
Oui, mais c'est un véhicule de 6 sièges au moins. On va pas t'acheter un 7 sièges parce que là,
non, tu vas être obligé moins de 55 000.
Oui, moins de 55 000. Et 55 000 si tu as 7 sièges. La question est toujours que maintenant on cumule le fédéral et le provincial et que le fédéral avait bloqué, dans le fond, la vente de véhicules électriques implicitement au Québec parce que les concessionnaires se faisaient dire par les clients bon, on ne sait pas encore c'est quand la subvention du fédéral, on n'ira pas. Et on ajoute, par exemple, une distorsion. Avec 13 000 $ de subvention, donc 29 % du prix d'un véhicule de 45 000. On a beau dire que c'est une bonne chose pour le Québec, on a beau dire qu'on a de l'énergie propre, j'ai toujours le malaise à subventionner une industrie automobile en me disant « Est-ce que l'industrie va nous transférer les économies? » C'est-à-dire, si on donne 13 000 de subvention, est-ce que l'industrie va attendre un peu plus avant de nous offrir la baisse de coûts de production liée à l'augmentation de volume? Parce que c'est ça le nerf de la guerre.
Ben oui.
Plus il y aura de production de véhicules électriques et de pièces, plus le coût va diminuer.
C'est pour ça que c'est si cher.
Moins la subvention va être logique, Paul. Et c'est à quel moment le gouvernement va devoir réagir en diminuant progressivement la subvention.
Attends une minute, là. Le cadeau du fédéral plus, évidemment, le cadeau du provincial, on peut aller jusqu'à 13 000 $
Oui, 13 000 $ mais pense-y. Si on donne 13 000 $ au concessionnaire automobile, au constructeur, celui-ci se dit, hey, le client, là, il fait le calcul entre l'essence puis l'électricité, il se rend compte des économies d'épargne d'électricité, donc il est prêt à payer plus cher pour son véhicule électrique, même si nous, dans un monde de parfaite concurrence, on aurait été obligé de baisser le prix du véhicule électrique pour être capable de le vendre et transférer au consommateur notre épargne. Encore, la question, c'est, est-ce que l'industrie automobile va ralentir sa baisse de prix parce qu'on subventionne l'industrie automobile? C'est quand même fou. Convaincre une industrie de vendre des véhicules en la subventionnant. Je sais que c'est pour notre bien collectif, mais il y en demeure pour moi que c'est assez fou de dire le marché ne réussit pas par offre et demande simplement en produire assez pour diminuer. Donc, c'est déterminé qu'avec la hausse du futur, avec le temps, là, on va payer moins cher nos véhicules. Et le gouvernement devra réagir extrêmement rapidement pour diminuer la subvention au fur et à mesure que les coûts de production réduisent pour ne pas subventionner l'industrie automobile à la place de subventionner implicitement le consommateur.
Le CRTC à Gatineau aujourd'hui a reçu les belligérants, je les appelle ainsi, Québécois et Bell et Pierre-Carl Péladeau, Pierre-Yves, il a été directement, il a ouvert carrément la porte à une fermeture éventuelle de TVA Sport.
Si on ferme TVA Sport, ça veut dire qu'on veut pas te faire de Nordique. Ça veut dire qu'on... Non, on veut. C'est de la stratégie de mise en abîme. Le problème, c'est que si jamais le CRTC réagit pas, il faut que M. Péladeau soit cohérent et ferme TVA Sport. Mais là, il y a un contrat de télévision. Tu comprends que tout ça est un peu de la menace pour avoir ce qu'on veut. Mais pourquoi pas fermer TVA Sport? Parce que les actionnaires, quand c'est venu le temps de fermer des canaux spécialisés parce que ils n'étaient plus mélangés à un cocktail de canaux obligatoires pour le téléspectateur, on n'a pas eu de gêne. Le canal argent, c'est ça qui est arrivé. Il y avait une autre histoire parce que c'était inclus dans le cocktail, dans le portefeuille de canaux. Mais une fois qu'on l'a sorti, qu'il fallait payer pour le canal puis que c'était pas rentable, on l'a fermé. TVA Sports, c'est du beau contenu pour les Québécois en général, même si c'est déficitaire. On veut l'avoir, mais ce qu'on veut, c'est le rentabiliser. Donc, ça fournit, tu sais, tu peux fournir du contenu pour le Journal de Montréal, pour TVA, t'as un effet implicite de convergence, mais l'actionnaire de TVA, Paul, fait pas d'argent. Tu sais, quand TVA Sport paye trop cher pour RDS, avec l'arrivée des Nordiques, avec la hausse de revenus des autres chaînes, avec la diminution des coûts, tasser RDS, qu'est-ce qu'on fait, là? C'est quoi qui va être à la place? Tu sais, pour le sport en français, qui va offrir du sport en français si c'est juste RDS? Est-ce que c'est correct? On a-tu juste de la place au Québec pour RDS et 98.5 sport? Peut-être. Mmh. Donc, si on n'est pas capable de rentabiliser, qu'on ferme, puis on fermera.
Tu sais, c'est la question. Mais il y avait un grand pari là-dedans. C'est-à-dire que le hockey professionnel reviendrait à Québec dans un superbe amphithéâtre qui porterait le nom de Québécois.
Hey, t'as l'actionnaire de TVA là, qui voyait son action à 33$, Paul, au début des années 2000. Il est rendu à 1,94$.
Ouais.
Il a perdu 40% de son action depuis un an. Mmh. L'actionnaire de TVA, c'est comme une personne en phase terminale dans une maison de soins palliatifs depuis 15 ans.
Ouais.
C'est tranquillement, pas vite, il voit la fin de son règne, tu comprends-tu? Donc, l'actionnaire n'a pas le choix de demander de dire « Est-ce que vous allez me donner du rendement?
Ouais, » ou
on sert simplement
surtout les pertes qui sont associées à TVA Sport.
effectivement.
Alors, la mobilisation financière pour Notre-Dame de Paris a dépassé, je crois, le milliard d'euros. Parmi les derniers là, bénéficiaires, pas bénéficiaires, mais les derniers dons qui sont mentionnés, Tim Cook, le grand patron de Apple, dit que Apple va contribuer justement au sauvetage de Notre-Dame.
Ce qui est fantastique, c'est que les donateurs, par le narcissisme d'une contribution dans du mortier, vont avoir une belle plaque un jour avec ces donateurs-là, tu comprends? Et avec des avantages fiscaux, vont te donner. Mais quand c'est le temps de payer ta juste part d'impôts, tous ces gens-là se battent rubis sur l'ongle pour payer le moindre cent de moins l'impôt. Mais pas d'argent pour les pauvres, pas d'argent pour la faim dans le monde, pas d'argent pour la distribution. Puis le don, Paul, au niveau fiscal, ça monopolise l'attribution selon ta décision personnelle en fonction de l'argent à ce qui doit être donné. Je te donne un exemple. Si moi, je décide de faire un don, hein, la société va me remettre de l'argent en proportion de mon don en me disant « Tu as décidé au nom de la collectivité de donner et la collectivité te redonne de l'argent de l'impôt que tu veux donner. » C'est spectaculaire quand même. Les plus riches de ce monde vont faire un don et vont décider que la collectivité vont redonner fiscalement à cette cause-là. Alors que c'est pas ça une collectivité. L'argent devrait être redonné en proportion des besoins qu'on juge collectivement les plus prioritaires. Mais comme on permet à l'individu ou à la société de donner où elle veut et d'avoir automatiquement un avantage fiscal lié, on vient permettre au mieux nantis de ce monde de décider ce qui devrait mériter une donation. Et ça, c'est l'effet pervers de notre système fiscal. Même chose au Québec. Si moi, je décide de donner, par exemple, à une fondation quelconque et qu'on me donne un crédit d'impôt autant au fédéral qu'au provincial, bon, 15% d'un, 29% de l'autre sur les premiers 200$, 15 et 29% d'un côté et 20 et 24% de l'autre, oublions l'abattement pour l'instant, mais comprenons, on est en train de décider que moi, personnellement, je décide pour la société. Alors, pourquoi Notre-Dame de Paris serait une priorité mondiale alors que plein de pays qui exigent que les Apple, que les Amazon, que toutes ces compagnies-là paient leur juste prix? Faut pas oublier que Apple avait quand même réussi à mettre des ventes dans certains pays, comptabilisées dans un autre pays, tu comprends, pour que le gain soit le moins imposable possible. On peut parler d'évitement fiscal, on peut dire que c'est légal, on peut parler de n'importe quoi, mais au niveau de la logique éthique et de la logique humaine, il y a des compagnies qui trichent et après ça, arrivent en bienfaiteur, Paul, et nous disent, voici, nous allons donner pour rebâtir une cathédrale.
C'est un peu le cas. La cathédrale flambait encore que déjà les géants de l'économie française, notamment Louis Vuitton, L'Oréal et tout ça. Mais là, tu as vu, c'est Apple aujourd'hui.
Combien de personnes on empêcherait de mourir, Paul, pour le même budget? Bien sûr. Je ne veux pas faire du populisme, mais un moment donné, c'est comme être humain. Puis comme observateur du système fiscal, c'est beaucoup de décadence humaine.
Tu n'es pas le seul, parce que j'ai vu en France sur, je ne me souviens plus sur quelle plateforme, des gens qui pensent exactement comme toi, disant « Ah, attention là, ce qu'on pourrait faire avec le même engagement à hauteur de 300 millions d'euros, par exemple. »
Tu l'as dit, l'affaire qu'il faut se dire, c'est pas nécessairement de reconstruire la cathédrale avec un budget de dons qui est le problème. C'est la vitesse avec laquelle les gens interviennent pour sauver une cathédrale alors que le monde s'écroule. C'est quand même spectaculaire.
Merci Pierre-Yves. Salut. Et à demain.